Nous avons bon sujet, rendre grâces à Dieu, même en cette saison au genre humain funeste, de nous avoir tirés du danger de la peste, nous qui courions les bois, à défaut d'autres lieux. J'ai relevé ce quatrain, sur la page de garde du même registre de 1629, du notaire Prat-Bernou. C'est comme un soupir de soulagement de cet homme qui, miraculeusement échappé à la peste qui le poursuivait, lui et sa famille, depuis ce jour du 4 septembre 1629 où il a décidé de quitter la ville infectée.
Madame Julien, Monsieur Julien, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Madame Julien, malgré toutes les mesures prises, la peste est entrée dans Saint-Antonin. Quelle illustration musicale avez-vous choisie pour évoquer cette période tragique?
Ce sera toujours un requiem, mais de Verdi. Peu liturgique celui-là. Bouleversant de détresse. Nous entendrons des extraits du Dies Irae avec les trompettes du jugement dernier, des extraits du Confutatis et le Lacrimosa. Ô jour plein de larmes, où l'homme ressuscitera de la poussière, cet homme coupable que vous allez juger.
Monsieur Julien, la vigilance des consuls et des habitants de Saint-Antonin n'a donc pas été suffisante pour empêcher la peste de venir frapper notre ville.
On a vu en effet dans l'émission précédente que la peste avait frappé le 31 juillet la famille Philippi, immédiatement proscrite à Bonn. Cependant que dès le 1er août, les consuls avaient pris des mesures de lutte contre l'épidémie. Prat-Bernou faisait partie du conseil de santé constitué ce jour-là et qui avait pour mission de proposer aux consuls les mesures à prendre. Mais rien n'est efficace devant une épidémie de ce genre. C'est la panique. Et tous ceux qui le peuvent, ceux qui possèdent métairies ou maisons à la campagne, s'empressent de quitter la ville. Et certains consuls, eux-mêmes, donnent ce déplorable exemple, imitant en cela Michel de Montaigne qui, jadis, en des épreuves semblables, abandonna Bordeaux dont il était maire. Le prieur Mage, quant à lui, s'est exilé à Rabastens. Cela explique cette longue lacune du registre des délibérations du Conseil de ville entre le 1er août 1629 et le 12 mai 1630. Il fallait cependant, et plus que jamais, administrer la ville, résoudre quotidiennement les difficultés de toutes sortes engendrées par le mal qui répand la terreur.
Jour de colère, où le monde sera réduit en cendres, selon les oracles de David et de la Sibylle.
Il faut expulser les nouveaux malades, et ils sont chaque jour plus nombreux. Leur assigner résidence en un lieu écarté, dans des huttes faites de chevrons, de clés et de paille, est construite à cet effet. Il faut procurer la nourriture nécessaire à ces malades pestiférés, consignés dans un véritable camp de concentration à Saint-Bernard et Albuguette au bout du Précommun et à Beaune. Il faut leur faire porter cette nourriture et ces vêtements, cependant que, sans désemparer, on doit désirer leur maison après les avoir parfumés. Il faut soigner aussi ces malades et ceux qui les ont approchés. Ensevelir les morts, nombreux, que les corbeaux emportent chaque jour à pleine charrette, et on achètera 2 charrettes à cet effet, et qu'ils jettent quelquefois dans les fossés de la ville en recouvrant les cadavres de chaux. Et cela se passe en plein mois d'août. Alors, à évoquer ces scènes, on comprend mieux le sens de ces expressions aujourd'hui banales. Une odeur pestilentielle. Mettre quelqu'un à l'écart comme un pestiféré.
Vous nous avez dit que devant l'arrivée de la peste, plusieurs responsables de la ville ont fui. Alors, comment administre-t-on Saint-Antonin pendant cette période difficile ?
Oh, c'est difficile à imaginer. La tâche était difficile pour les 3 consuls restés dans la ville, qui avaient nom Lacroix, Bécaille et Saint-Just, tous les 3 protestants, soit dit entre parenthèses, et des membres du conseil de santé et des médecins, apothicaires et chirurgiens et parfumeurs qui étaient là, et qui ne savaient plus où donner de la tête. Les 3 autres consuls se tiennent à l'abri, hors la ville. Antoine Maffre, sieur de Cadiès et premier consul, est là-haut dans son manoir de Selgue. Antoine Dubois, 3e consul, s'autorise de ses fonctions de procureur en la cour du Sénéchal pour rester à Caylus. Tandis que Valade, lui, c'est le consul paysan. Il habite dans sa ferme de Valade, vous le comprenez. Cependant, il faut absolument réunir le conseil de ville pour prendre les décisions, trouver l'argent indispensable pour se procurer vivres et médicaments. Et enfin, il faut assurer le suivi de l'administration. Alors, on envoie le consul de Juste en campagne et on le mandate pour se réunir avec les consuls absents et les trésoriers de la communauté. Et le 15 août se tient le 1er conseil de ville depuis le 1er du même mois, dont le procès-verbal, sur feuille volante, par miracle, nous est parvenu. On peut y lire. L'an 1629 est le 15e jour du mois d'août. Dans un champ, près le masage de Gautier, il lec assemblée, messieurs de Cadiès et Dubois, consuls de Saint-Antonin, messieurs de la Jonquière, Philippi et Mordaigne, docteurs, David Palotte, bourgeois, David Plagavin et Jean Cazel, pour conférer avec le sieur de Juste, aussi consul, Jean Palotte, contrôleur, et de Monta, notaire, étant, écoutez bien, étant un peu éloignés les uns des autres à cause de la maladie contagieuse qui est audit Saint-Antonin. Alors le consul de Juste expose la situation et les nécessités qui se rencontrent dans la ville. Il est décidé d'utiliser une somme de 1000 livres enfermée dans un coffre détenu par un particulier de Najac à qui le trésorier Mordaigne l'avait confié. Ça peut paraître étrange, mais cette somme de 1000 livres était le résultat d'une imposition frappée sur tout le bailliage Viguerie de Najac destinée à payer le logement des troupes. Mais on va s'en servir pour la peste. Le 19 août suivant, les consuls restés à Saint-Antonin envoient Gibilly à Toulouse pour obtenir un arrêt du Parlement contraignant les consuls absents à se remettre dans la ville. Vous comprenez que ceux qui sont restés à Saint-Antonin, ils sont un peu amers de voir que leurs collègues sont en campagne, bien à l'abri. Mais vous comprenez aussi que cet arrêt, signifié à Dubois le 22 août, restera sans effet. Désormais, pour les affaires pressantes, on enverra de Juste ou Bécaille provoquer une assemblée champêtre. Et l'on apprend ainsi, par les ordres de paiement, par les quittances, par les procès-verbaux, que ces réunions se tenaient soit à Gautier, soit à La Vessière, soit à Carandier, soit à Espagnac et au bout de la côte rodanaise.
Suppliant et prostré, je vous prie, le cœur brisé et comme réduit en cendres. Très vite, la maladie s'aggrave et il faut engager de nouveaux médecins et parfumeurs. C'est Dubois qui, en cette affaire, va faire preuve de beaucoup d'efficacité. Les notes de frais qu'il présentera plus tard en remboursement de ses voyages le montrent toujours à travers pays. À Villefranche, où il obtient délivrance par les consuls du lieu, écoutez bien, de 12 livres de parfums écossais, de 3,5 livres d'élixir et de 1 livre de parfum de santé. Cela ne nous renseigne pas beaucoup sur les médicaments. Il est à Cahors, où il se rend plusieurs fois pour engager un maître chirurgien au tarif raisonnable de 150 livres par mois et 6 parfumeurs recommandés par les pères Capucins au salaire chacun de 40 livres par mois, capables de parfumer et tirer hors d'infection toutes les maisons de la dite ville de Saint-Antonin. Et nous savons qu'il y en avait 700. Il est à Villefranche à nouveau pour engager un nouveau chirurgien. Enfin, il va à Toulouse pour un médecin. À chaque fois, un contrat est passé devant notaire. Et nous pouvons ainsi, en feuilletant tous ces papiers jaunis, salis des mains qui les ont portés, évoquer cette terrible période dont nous ne pouvons dire, malheureusement, faute de registre d'état civil ou d'autres indications, combien elle a fait de victimes parmi la population. Un très grand nombre sans doute, puisque la maladie contagieuse se maintiendra pendant plusieurs mois dans la ville, puis dans la campagne environnante, où la peste sévira encore en avril 1630, au Mas d'Alios, c'est-à-dire à Sainte-Sabine, et au mois de mai, aux Granges. Le 4 août 1630 encore, on peut lire dans le registre des délibérations des consuls qui siègent maintenant en ville, le dissieur Vidalet, chirurgien et parfumeur, employé depuis 3 mois en cette ville pour pourvoir aux inconvénients de la maladie contagieuse, moyennant 30 livres par mois pour son entretien et celui de sa famille, sera continué dans ses fonctions pour 3 mois encore, attendu que la maladie sévit en divers lieux circonvoisins. À cette époque-là, comme jadis, si l'on a d'autres moyens que les seules prières et processions pour conjurer l'épidémie, la peste reste
un mal terrible, plus terrible peut-être, qui a semé mort, désolation sur la ville et la campagne, et rempli d'épouvante les pauvres gens qui la subissaient.
Contrairement à ce qui s'était passé lors des premières épidémies de peste du Moyen-Âge, on voit que, en 1628-1629, les mesures prises pour se protéger de la terrible maladie, même si elles manquent d'efficacité, sont pleines de bon sens. Alors, est-ce qu'on sait où en était la science à cette époque-là et comment on expliquait la peste?
Tout le monde sait que depuis la Renaissance, les travaux de certains savants arabes, anglais, français, des progrès considérables avaient été accomplis en médecine. On n'oublie pas Ambroise Paré, et qui a fait progresser la chirurgie de façon considérable. Il n'est pas douteux, compte tenu des mesures prises par les consuls de Saint-Antonin, que tout le monde à ce moment-là avait conscience que la peste n'était pas simplement un fléau envoyé par Dieu, mais que c'était une maladie qui se transmettait par la contagion. Incontestablement là, et bien que nous regrettions la période dorée du Moyen-Âge, il faut avouer que la Renaissance a permis un progrès de la science médicale.
De nombreuses personnes sont engagées pour combattre la peste. Des médecins, des parfumeurs et des corbeaux pour enterrer les morts. Ces hommes gagnaient beaucoup d'argent, mais devaient prendre des risques énormes.
Bien sûr.
Est-ce que c'était des aventuriers ou des hommes qui agissaient par devoir?
Par devoir, peut-être, oui, mais le danger était si grand qu'on ne peut quand même pas demander un sacrifice aussi énorme à des gens ordinaires. En ce qui regarde les médecins, ils étaient quand même médecins. On peut considérer donc que c'était des gens qui avaient fait leur preuve de bonne conduite, de savoir-faire et de science. Mais en ce qui regarde les parfumeurs et les corbeaux surtout, on peut, sans crainte d'exagérer, penser que c'était des gens plus ou moins sans aveu qui trouvaient là l'occasion de gagner beaucoup d'argent avec beaucoup de risques. À toutes les époques de notre histoire, on a trouvé ainsi des gens qui étaient prêts à tout, y compris à risquer la mort, pour gagner beaucoup d'argent. Et les salaires payés, vous l'avez vu, étaient considérables.
Ces gens-là qui fréquentaient en permanence des pestiférés, on peut penser qu'ils étaient certainement immunisés, sinon ils seraient morts presque de suite.
Je le pense. De toute manière, tout le monde ne contractait pas la peste. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais les oreillons et d'autres qui n'ont jamais la rougeole.
Est-ce qu'on avait conscience de ce que c'était l'immunité?
On l'a constaté, mais je ne pense pas que le terme ait été formulé à cette époque-là. C'était une de ces choses-là que l'on voyait, il y en avait qui résistaient, d'autres pas. Mais ça, je ne pense pas que le mot immunité puisse être placé à cette époque-là.
Est-ce que ces gens qui fréquentaient souvent les pestiférés avaient des moyens à cette époque-là pour se protéger?
Les seuls moyens dont ils disposaient, ce sont ceux que l'on peut voir sur les gravures de l'époque, c'est-à-dire se revêtir d'une blouse rouge, je crois, pour les médecins, et les uns et les autres se mettre sur le visage, ou du moins sur le nez, pour éviter l'inhalation des odeurs et des airs méphitiques, et ils se mettaient une sorte de masque sur le nez que l'on voit sur les gravures de cette époque, et qui était rempli de coton, d'ouate, imprégné d'un parfum quelconque, peut-être ce fameux parfum écossais qu'on est allé acheter à Villefranche. Je ne sais pas, il va y avoir du musc, une bonne odeur, quoi.
Pour se protéger de la peste, les Saint-Antoninois qui le pouvaient se réfugiaient à la campagne.
Eh oui.
Est-ce que donc les fermes étaient moins touchées par la peste que la ville?
Il est évident que les fermes étaient moins touchées parce qu'il y avait moins risque de contagion. On le sait, la peste sévissait surtout, et encore aujourd'hui le choléra par exemple, sévisse dans les lieux où il y a beaucoup de concentration de population et où les conditions d'hygiène sont extrêmement mauvaises. La campagne a toujours été le bon air, à cette époque-là comme aujourd'hui.
Certaines villes étaient touchées par la peste, d'autres ne l'étaient pas. Et vous nous avez expliqué qu'il y avait un laissez-passer d'une ville à l'autre pour garantir les villes qui n'étaient pas touchées de la maladie.
Oui, ben oui.
Vous avez un exemple de laissez-passer.
Oui.
Vous pourriez nous le lire, s'il vous plaît.
Je vais le lire à défaut de pouvoir vous le montrer, ce que je regrette beaucoup parce que c'est extrêmement émouvant de tenir dans ses mains ce laissez-passer qui a été délivré. par les consuls de Caylus. Voici, nous, consuls de la ville de Caylus, de Bonnette, en Quercie, certifions que dans la ville de Caylus, grâce à Dieu, n'y a aucune maladie contagieuse, sinon bonne santé. En foi de quoi, avons fait expédier le présent certificat à Maître Antoine Dubois, procureur au siège de Montauban, avec son homme, qui sont partis ce jour-là du dit Caylus pour aller à l'Albenque, pour savoir si à Cahors se trouvaient des déserreurs pour parfumer la ville de Saint-Antonin et savoir combien de drogue est le prix que faudra pour 700 maisons de la dite ville, fait à Caylus le 14e octobre 1629 et s'est signé porte consul et contresigné par le tabellion des consuls Audubert. Et au coin gauche de ce papier, le coin gauche a été découpé, replié et on a scellé avec un sceau sec des armes de la ville de Caylus. C'est très touchant.
Pour se protéger de la peste, beaucoup d'habitants de la ville fuyaient Saint-Antonin. Ce devait être dramatique pour ces gens-là de quitter tout ce qu'ils avaient à Saint-Antonin. Est-ce qu'on sait ce qui devenait?
Oui, et c'était dramatique et non. Et nous le verrons à la fin de l'émission. C'était un moyen d'échapper à la peste. La plupart de ceux qui se fuyaient, je l'ai dit, et ils allaient se réfugier, s'ils en avaient les moyens, dans leur métairie, c'était donc des bourgeois, ou bien chez des amis à la campagne, aux granges, à Cervanac, à Montpalache, à Joigny, à Gautier, partout, à Carandier, partout, on savait pouvoir trouver asile. C'est pour ça que le conseil de ville se réunissait d'ailleurs dans ces hameaux, parce que là, il y avait des consuls et d'autres qui résidaient avec eux. C'était un moyen de se mettre à l'abri. D'autres, évidemment, partaient peut-être à Montauban, à Toulouse ou dans d'autres régions. Ils fuyaient la peste et ne les plaignons pas, cela.
Oui, parce que de toute façon, seuls ceux qui en avaient les moyens pouvaient le
permettre. Évidemment.
Oui, donc ceux qui sont restés à Saint-Antonin, qui étaient confrontés à cette terrible maladie, devaient avoir un peu de rancœur vis-à-vis de ceux qui...
Il n'est pas douteux qu'ils devaient éprouver au moins de la rancœur, si ce n'est de la colère contre ceux qui étaient partis, et que, bon, ils ne pouvaient rien. Et toujours pareil, il y a les privilégiés et les autres. Et il est bien étonnant que les autres, justement ceux qui n'ont pas l'avantage de bénéficier d'abri, doivent subir leur triste sort. Mais on ne pourra pas les empêcher, s'ils réchappent eux de la peste, de dire ce qu'ils pensent à ces messieurs qui étaient partis.
Oui, et est-ce qu'on sait comment, à la fin de l'épidémie de peste, ils ont été reçus?
Voilà,
en particulier ces consuls qui avaient abandonné leur poste, en plus.
Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, enfin, c'est peut-être une des conséquences, ça, les délibérations du conseil de ville qui auront lieu par la suite seront aussi mouvementées, aussi houleuses, aussi haineuses que celles dont nous avons déjà parlé. Vous avez pu observer qu'il se trouve, comme par hasard, que c'était les trois consuls protestants qui étaient restés dans la ville et que c'était les trois consuls catholiques qui avaient fui. Alors, imaginons que la première réunion qui s'est tenue dans la ville n'a pas dû se passer facilement.
Est-ce qu'on a une idée de ce que pouvait être l'activité à Saint-Antonin pendant cette période tragique?
Oh ben, elle est facile à comprendre. Hein. Toute vie était arrêtée. On ne pouvait pas sortir de la ville, on ne pouvait pas y entrer. Tout commerce était interdit. Les travaux des champs étaient suspendus puisqu'on ne pouvait même pas sortir pour aller cultiver le jardin. Donc c'était une ville morte. On devait nourrir la population qui était là, lui apporter les vivres. Et je n'ai pas de meilleure comparaison à vous apporter, ou à vous fournir plutôt, que celle de ces tristes journées que nous avons vécues quelques-uns il y a 2 ans. C'était le 14 décembre 1981, quand cette inondation a recouvert une partie de la ville et des environs de Saint-Antonin.
Oh,
terminé, écoutons le témoignage de Barthélemy Prat-Bernou, notaire royal, avec lequel nous avons ouvert l'émission. Témoignage qu'il a laissé volontairement pour la postérité, puisque, je le répète, rédigé sur la page de titre de son registre de 1629. Écoutez. Le 4e septembre, en susdit 1629, je sortis de la ville Saint-Antonin avec toute ma famille, à cause de la grande contagion y advenue, ayant commencé en la maison de David Philippi Marchand, ayant ravagé presque toutes les familles y demeurées, et qui n'étaient sorties du commencement de la maladie. Et notre retraite et habitation fut au masage de Gouverne, juridiction de la dite ville, en maison petite et de plein pied des héritiers de feu Jean Nonorgue, dit l'amitié. Et mon dit fils avait été secouru par Guillaume Nonorgue, laboureur du dit masage. Après la maladie, ayant atteint le voisin de Nonorgue, nous fûmes contraints de quitter notre chambre et nous retirer dans la grange du dit Guillaume Nonorgue, où nous demeurâmes 4 jours. Et après, Monsieur de Monta, mon neveu, nous remit dans 2 petits cabanons, en Sagamas, l'Aise Montpalache, où ayant demeuré 7 jours, au bout d'Isseux, le petit David, mon fils, fut blessé de la dite maladie contagieuse et mourut dans 3 jours après, comme aussi dans autres 2 jours à suite, la pauvre Judith, ma fille, et furent servies et consolées par Jeanne de Veillerie, ma femme, qui ne les quitta jamais jusqu'à leur fin, lesquelles elle plia tous deux et ont été enterrés l'un près de l'autre sur le bord et au ré du Dibois vers Orient. De là, 4 jours après l'enterrement, nous 4 restants, savoir ma dite femme Jeanne, mon fils, Isabeau de Constant, ma belle-fille, grosse pour l'heure de Jean-Jacques, mon petit-fils, avec moi notaire, fûmes traduits à la métairie d'Astier, en 2 huttes de Jean Poussou, où nous demeurâmes 55 jours. Et nous étant parfumés, nous retournâmes au lieu de Montpalache, dans la maison à plein pied des héritiers de la Griffoule, à 12 sols et 6 deniers du louage par mois, où, ayant demeuré 2 mois, nous retournâmes après la naissance du dit Jean-Jacques.